On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Il est une fois la maison qui pousse jusqu'au ciel. Un texte de Frédéric Lavoie paru le 5 septembre 2025 dans les As de l'info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, un homme qui ajoute toujours un nouvel étage à sa maison. Tout a commencé, il y a quelques années, quand Tian Ming et sa famille ont reçu un message du gouvernement. Mauvaise nouvelle, leur maison serait bientôt détruite comme toutes celles dans leur village. Pourquoi? Le terrain allait servir à bâtir un gigantesque centre touristique pour que des gens de partout dans le pays viennent s'y divertir. Les villageois et villageoises devaient déménager. En échange, ils allaient recevoir une somme d'argent pour s'établir dans l'une des grandes tours à logement de la ville voisine. Au revoir la campagne, bienvenue en ville. Mais Tian Ming, son frère Tian Liang et leurs parents âgés ne voulaient pas quitter leur maison. Elle n'était pas très chic, mais ils l'aimaient, avec son jardin de grenadiers, les rizières tout autour, les montagnes à l'horizon et tous les souvenirs de famille qu'elle représentait. Rien en ville ne pourrait remplacer cela. Alors que les bulldozers rasaient les maisons voisines, Tian Ming a embauché des avocats pour l'aider à empêcher la destruction de la sienne. Il a également eu une autre idée. Puisque la somme d'argent remise dépendait de la taille de la maison, il a commencé à l'agrandir. Comme ça, si jamais elle était détruite malgré tout, il pourrait obtenir plus d'argent. Mais comme il ne pouvait empiéter sur les autres terrains, il a entrepris de l'agrandir par le haut, en ajoutant de nouveaux étages. Tian Ming est donc allé acheter des planches de mauvaise qualité, c'est tout ce qu'il pouvait se payer, de vieux poteaux, des poutres de bois et d'autres matériaux recyclés. Et avec son frère, Tian Lang, il s'est mis à l'œuvre. Des deux étages déjà existants, la maison est passée à 3, puis à 4 et à 5. Pour assurer la stabilité de la structure, chaque nouvel étage devait être plus étroit que le précédent. Il a aussi fallu installer des câbles et des cordes pour bien accrocher la maison au sol. Et hop, un sixième étage. Entre-temps, le projet de centre touristique a été abandonné. Mais il était déjà trop tard. Tout le village avait déjà été détruit. Sauf la maison de la famille de Tian Ming, bien sûr. Et un septième. Bien que sa maison n'était plus menacée, Tian Ming a voulu continuer son projet fou. Il avait pris goût au défi toujours plus haut, huitième étage. Chaque fois qu'il complétait un nouvel étage, il y déménageait sa chambre à coucher pour avoir toujours une meilleure vue sur les environs. Et un neuvième, quant à son frère et leurs parents, ils préféraient dormir au rez-de-chaussée, ne montaient que très rarement dans les hauteurs désormais vertigineuses de leur résidence. Dixième étage. Un jour, son frère, Tian Lang, lui a suggéré d'installer des lanternes sur les étages. Ainsi illuminée de nuit, la tour étourdissante avait maintenant vraiment l'air d'un château de sorciers malicieux d'un conte de fées. encore un. 11e étage. C'est alors que les curieux et les curieuses ont commencé à affluer. Tout le monde voulait photographier cette bizarrerie dans le paysage, cette maison faite de briques et de brocs au milieu d'un village disparu qui résistait à tous les vents et à toutes les pluies. Et c'est ainsi que la maison de Tianming, qui avait résisté à un projet de centre touristique, s'est elle-même transformée en attraction touristique. Cette histoire est bien vraie. Chen Tianming habite dans la province de Guizhou, dans le sud de la Chine. En 2018, sa famille a appris qu'un projet de centre touristique la forcerait à déménager. Maintenant que ce projet est abandonné, leur maison peut rester en place. Les autorités ont néanmoins installé une pancarte près de celle-ci pour mettre en garde la population contre les risques d'effondrement de cette tour improbable, qui compte à ce jour 11 étages. Mais où était Donald Trump? Un texte de Camille Lopez, paru le 3 septembre 2025 dans les As de l'Info. Le président des États-Unis est filmé et photographié plusieurs fois par jour. Il fait des déclarations fracassantes. Il prend la pose devant les photographes. Il accorde des entrevues. Bref, c'est un hyperactif de la caméra. Alors, quand M. Trump s'est absenté pendant pratiquement une semaine, ça a semblé anormal pour beaucoup de gens. Des rumeurs sur une grave maladie ou même sa mort ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Es-tu tombé dans le piège? Parlons-en. À la recherche de Trump, le 26 août, Donald Trump a été filmé et photographié pendant une réunion. Puis pendant 3 jours, silence radio. Il a finalement été vu le 30 août, alors qu'il quittait la Maison-Blanche avec sa petite-fille Kay. Quelques photos de lui ont été prises dans les jours qui ont suivi, mais il est demeuré très discret. Tout ça n'était vraiment pas dans ses habitudes. Le président américain est en général très actif, et la Maison-Blanche n'a donné aucune explication sur son absence. Alors, bien entendu, la machine à rumeurs s'est emballée. Place aux rumeurs. Dans les derniers jours, des millions de gens ont partagé sur les réseaux sociaux des messages laissant croire que le président était gravement malade et même mort. Tout ça sans preuve solide. 3 éléments ont renforcé ces rumeurs. Donald Trump est âgé. Il a 79 ans. En juillet, la main du président présentait une grosse ecchymose. Une porte-parole a expliqué qu'elle a été causée par plusieurs poignées de main. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré en entrevue que Donald Trump était en forme, mais il a ajouté qu'il était prêt à le remplacer comme président si une tragédie se produisait. Mais finalement, le 2 septembre, soit 7 jours après sa dernière prise de parole en public, Donald Trump a donné une conférence de presse. Tout le monde a pu constater qu'il était bien vivant. Un journaliste en a profité pour lui demander s'il avait entendu parler des rumeurs sur sa santé. « Ce sont de fausses nouvelles », a-t-il répondu. Il n'a pas vraiment expliqué son absence. Il a simplement dit qu'il s'agissait d'une longue fin de semaine et qu'il avait été bien occupé. Pas d'infos, attention au vide. Mais que s'est-il passé pour qu'autant de gens croient une fausse rumeur? Ils sont tombés dans ce qu'on appelle un vide informationnel. Comme la Maison-Blanche ne disait pas où se trouvait le président et qu'aucun média n'avait publié d'enquête sur le sujet, il n'y avait aucune source fiable pour répondre à la question « Où est Donald Trump ?» Ça laissait toute la place à des réponses fausses, erronées, exagérées et manipulées pour remplir le vide. C'est ce qui s'est passé pendant l'absence de Donald Trump. Et puis, entre toi et moi, c'est toujours tentant de croire à des rumeurs spectaculaires. Non? Qu'est-ce qu'on retient? Quand une rumeur démarre, il vaut mieux attendre qu'un média en qui on a confiance, comme les As de l'Info, ou une source officielle se penche sur le sujet. Tu peux toujours nous écrire pour nous demander de t'aider à vérifier une info. Ne pas partager de publications non vérifiées. Ne pas inventer ou exagérer des infos. Et toi, as-tu déjà cru à une rumeur qui s'est finalement avérée fausse? Quelles ont été les conséquences? Les As du sport. Félix Auger-Aliassim brille au US Open. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 3 septembre 2025 dans Les As de l'Info. Félix Auger-Aliassim atteint la demi-finale du tournoi de tennis des États-Unis. Après 3h11 de jeu, il triomphe de l'Australien Alex de Minaur. Mais ce n'est pas tout ce qui bouge dans le monde du sport. Tennis, soccer, rugby, enfile tes running shoes, je te donne les dernières nouvelles. Félix Auger-Aliassim en demi. Le joueur de tennis québécois continue son parcours au US Open. Il atteint la demi-finale dans un match palpitant. Après avoir perdu la première manche, il gagne les trois suivantes après 3h11 de jeu. Après avoir éliminé Alexander Zverev, 3e mondial, et Andrey Rublev, 15e mondial, c'était maintenant au tour d'Alex de Minaur, 8e mondial. Après une saison compliquée, c'est une vraie opportunité pour le joueur canadien de finir sa saison de la meilleure des façons. Lila et Vénus, le duo de l'heure. Le US Open a réservé de nombreuses surprises, dont la complicité entre la jeune joueuse de tennis canadienne Lila Fernandez et la légendaire Vénus Williams. Le duo a brillé jusqu'au 3e tour du double féminin, Lila affirmant « On est offensive, agressive, toujours prête à sauter sur la balle », tandis que Vénus soulignait l'énergie du public. Leur parcours s'est arrêté en quart de finale, mais leur esprit combatif et leur complicité ont marqué le tournoi. L'échange de l'année. Micah Parsons, l'un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL, troque son uniforme blanc et bleu des Cowboys pour le vert et jaune des Packers. Le chasseur de quart a signé un contrat de 4 saisons d'une valeur de 258 millions de dollars canadiens. Les Cowboys de Dallas reçoivent en retour 2 choix de premier tour au prochain repêchage, ainsi que le plaqueur défensif Kenny Clark. Avec cet ajout, Green Bay renforce considérablement sa défense et espère remporter le Super Bowl pour la première fois depuis 2011. Du côté de Dallas, difficile de comprendre la décision. Après une saison décevante, échanger son meilleur joueur défensif n'est peut-être pas l'idée du siècle. Alexander Hizak devient le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, le championnat de soccer anglais. Il transfère de Newcastle à Liverpool pour 232 millions de dollars canadiens. Les plus grosses ventes du monde du soccer. Au soccer européen, une équipe peut acheter un joueur à une autre équipe, à condition d'avoir l'argent. Voici le top 5 des plus grosses dépenses de la saison 2025-2026. Premièrement, Alexander Hizak, Newcastle vers Liverpool, 232,8 millions canadiens. Deuxièmement, Florian Wirtz, Leverkusen vers Liverpool, 200,7 millions canadiens. Troisièmement, Hugo Ekitic, Francfort vers Liverpool, 152,5 millions canadiens. Quatrièmement, Nick Voltemade, Stuttgart vers Newcastle, 144,5 millions canadiens. Cinquièmement, Benjamin Sesko, Leipzig vers Man United, 122,8 millions canadiens. Une domination canadienne. Le Canada a écrasé le Pays de Galles 42-0 à la Coupe du monde féminine de rugby. Grâce à 6 essais, l'équivalent du toucher au football, et à une Sophie de Goethe étincelante, les Canadiennes ont imposé leur puissance. Cette 8e victoire consécutive contre les Galloises leur assure une place en quart de finale et confirme leur grande forme. Leurs adversaires sont prévenus. Et toi, comptes-tu pratiquer un sport cette année? Si oui, lequel? Moins d'argent pour la sécurité autour des écoles. Un texte de Marie Bernier, paru le 9 septembre 2025 dans les As de l'Info. Est-ce qu'il arrive que des automobilistes roulent trop vite près de ton école? Pour les forcer à ralentir, le gouvernement du Québec avait prévu une grosse somme d'argent. Cet argent devait servir à installer des radars photos, à élargir des trottoirs, bref, à faire en sorte de rendre le trajet vers l'école sécuritaire. Mais on a appris la semaine dernière que le gouvernement a décidé de ne donner que la moitié de l'argent promis. Ça cause beaucoup de déception. Tu te souviens peut-être de cette triste histoire en 2022. Une petite Ukrainienne a perdu la vie à Montréal après s'être fait frapper par une voiture. Elle était sur le chemin de l'école. La nouvelle avait peiné tout le Québec. Cette année-là, un nombre élevé de piétons avait aussi été victime d'un accident de la route. L'année suivante, en 2023, le gouvernement du Québec a réagi. Il a offert 38 millions de dollars aux villes pour rendre les abords des écoles plus sécuritaires. Comment? Voici quelques exemples. En installant des radars photos. En rétrécissant l'espace destiné aux autos. En créant des pistes cyclables. Cette somme de 38 millions devait revenir chaque année pendant 5 ans. À travers ce programme, on espérait aussi que les enfants prennent le vélo, la trottinette ou leurs pieds plutôt que l'auto pour se rendre à l'école. Les déplacements deviendraient donc plus sécuritaires et respectueux de l'environnement, d'un coup. Mais la semaine dernière, on a appris que le budget de ce projet passait de 38 millions de dollars à 20 millions. Si tu fais le calcul, c'est presque la moitié de ce qui avait été promis. Pourquoi le gouvernement a-t-il pris cette décision? J'ai contacté le ministère des Transports mardi dernier, puis jeudi dernier. Je n'ai obtenu aucune réponse. Les villes qui devaient recevoir cet argent pour effectuer les travaux près des écoles ont dénoncé la situation. Même chose chez des organismes, par exemple, ceux qui représentent les piétons. Pour eux, il est urgent d'agir pour qu'il n'y ait plus jamais d'accident près des écoles. Et toi, te sens-tu en sécurité quand tu vas à l'école? As-tu déjà eu peur pendant ton trajet? Raconte-moi. Pour ou contre les cellulaires à l'école? Un texte de Caroline Bouffard paru le 8 septembre 2025 dans les As de l'Info. Ce n'est sûrement pas une nouvelle pour toi. Depuis la rentrée, les cellulaires sont interdits dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Pas juste dans les classes, partout. Tu t'en doutes, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a ceux qui disent que le cellulaire peut être utile et ne devrait pas être banni. et d'autres qui sont vraiment contents de cette interdiction. Regardons ensemble les pour et les contre des cellulaires à l'école. Les pour. C'est pratique pour communiquer avec nos parents. Le cellulaire permet de rester en contact avec nos parents pendant la journée. On peut coordonner notre transport, aviser d'un changement d'horaire. C'est rassurant pour nous et pour eux. Avec les cellulaires maintenant interdits partout à l'école, c'est moins facile de garder le contact. Pas cool. Ça peut être un outil très utile en classe. Un cellulaire, c'est vraiment plus qu'un téléphone. Et au secondaire, où il y a moins d'ordinateurs qu'au primaire, on peut s'en servir en classe pour faire des recherches, prendre des notes. De nombreux profs s'en servent pour faire des quiz en classe. Le cellulaire peut aussi nous aider à organiser notre horaire. Agenda en ligne, rappel programmé. Super pratique aussi pour planifier des travaux d'équipe. Ça peut aider à nous calmer. Une classe, c'est bruyant. Une cafétéria aussi. Certains élèves ont besoin de calme et de silence. Avec un téléphone et des écouteurs, on peut écouter de la musique et entrer dans une bulle qui fait du bien. Les contres. Ça nuit à la concentration. C'est prouvé par des tonnes d'études. Le cellulaire nuit à la concentration. Même un téléphone éteint sur le coin du pupitre est une distraction. Et l'attention et la concentration sont essentielles pour apprendre. Alors, c'est logique que ce soit la priorité des écoles. Ça alimente les conflits et l'intimidation. C'est un des arguments qui ont poussé le gouvernement à interdire les cellulaires à l'école. Beaucoup de conflits naissent en ligne et sur les réseaux sociaux. Intimidation, partage de photos pour ridiculiser, menaces. Tous les moyens sont bons pour lutter contre ce genre de problème. Ça nuit aux relations avec les autres. Que faisaient les élèves dans les corridors de l'école ou à la cafétéria? Ils regardaient leur cellulaire. Beaucoup d'écoles ont aussi remarqué qu'il y avait moins d'inscriptions aux activités parascolaires du midi parce que les élèves étaient collés à leur téléphone. La tête baissée et les yeux sur l'écran. Ce n'est vraiment pas le moyen idéal de se faire des amis. Toi, es-tu pour ou contre les cellulaires à l'école? Québec débranche le projet Northvolt. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 4 septembre 2025 dans les As de l'Info. C'était présenté comme un projet historique pour le Québec. La construction d'une méga-usine de batteries électriques au sud de Montréal. Mais mardi, le gouvernement de la CAQ a annoncé qu'il abandonnait le projet. Des millions de dollars ont été dépensés et des centaines d'arbres ont été coupés pour accueillir l'usine de Northvolt, qui ne sera finalement jamais construite. On te résume cette histoire en 5 moments. Le 28 septembre 2023, l'annonce. Ce jour-là, le premier ministre du Québec, François Legault, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sont ensemble pour faire une grande annonce. Tout sourire, il révèle que la compagnie suédoise Northvolt va construire une immense usine de la taille de 75 terrains de football. Elle sera située à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville, en Montérégie. L'usine doit employer 3000 personnes et commencer à fabriquer des batteries d'ici la fin 2026. Elle produira assez de batteries pour alimenter 1 million de véhicules électriques par an. Hiver 2024, friction. Quelques mois après l'annonce, le projet crée des frictions. Les citoyens de la région craignent que la méga-usine soit une source de bruit et de dérangement. Une pétition contre le projet circule. On apprend aussi qu'au printemps 2023, Le gouvernement avait bloqué un projet d'immeuble sur le terrain de la future usine. Raison: pour protéger l'environnement. Pourtant, le même gouvernement autorise maintenant la construction de l'usine à cet endroit. Ça soulève des questions. Des journalistes découvrent que le gouvernement a changé certaines règles quelques mois avant l'entente avec Northvolt. Normalement, la compagnie aurait dû faire des études sur l'impact sur l'environnement avant de commencer la construction. Avec les nouvelles règles, ce n'est plus nécessaire. Septembre 2024. Démission est mise à pied. Le 3 septembre, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie et de l'Énergie du Québec, démissionne. C'est lui qui pilotait le projet de l'usine Northvolt depuis le début. Plus tard, le même mois, on apprend que Northvolt va supprimer 1600 emplois dans ses usines de Suède. L'entreprise a des difficultés financières. Mars 2025. Faillite de Northvolt. La situation de la compagnie suédoise ne s'améliore pas. Le 12 mars, elle annonce qu'elle fait faillite en Suède. Près de 5000 employés perdent leur emploi. L'avenir de la méga-usine au Québec semble encore plus incertain. 2 septembre 2025, Québec enterre le projet. C'est la remplaçante de Pierre Fitzgibbon, la ministre Christine Fréchette, qui annonce que l'usine ne sera pas construite. Elle écrit que le gouvernement est déçu. Le Québec a déjà investi 510 millions de dollars dans l'aventure. Une partie, 240 millions, sera récupérée, mais le reste, 270 millions de dollars, est perdu. Pour l'instant, on ne sait pas ce que le gouvernement fera de l'immense terrain où l'usine devait être construite, mais la province souhaite toujours développer des batteries électriques qui sont une source d'énergie verte. Et toi, que ferais-tu de ce grand terrain maintenant libre? On veut tes idées. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.